tous les jours la barge russe avec Johnny. JetFM 91.2. Bergerus 1020. Attention, 1020. Le cycle du con. Alors, faut-il rappeler ce qu'est un con ? Eh bien, nous le savons tous déjà à peu près, mais plus particulièrement dans cette chronique, le con est généralement le conditionnement, la consommation, le contrôle, le conformisme et le confort. Donc, si j'essaie d'arranger ça d'une façon plus dissuasive, peut-être. Nous sommes conditionnés dans le but d'être contrôlés et surtout de consommer pour une consommation. Et afin d'être conforme et plaire au conformisme, et tout ça, que nous puissions avoir un confort. En tout cas, l'illusion, qui ne commence pas par con, mais qui est con aussi, l'illusion du confort. Alors, voilà le cycle du con. Donc, depuis très longtemps, j'en parle, le trois cons. Donc, le trois cons reste conditionnement, consommation, contrôle. Et là, on va commencer dans la mémoire visuelle, se joue notre avenir. Alors, comment est-ce que j'ai eu ça ? Eh bien, c'est en feuilletant la métaphysique d'Aristote, car bon, bah, c'est lui qui l'a à peu près dit un truc comme ça, quoi. Même si à l'époque, on n'était pas à ce phénomène actuel de la consommation. C'était avant Jésus-Christ. Yes. Yes, I drink my coffee. Okay? It's all right? Yes, it's all right. Nous allons cependant traverser les tomes 12 et 13 des fragments posthumes de Friedrich Nietzsche. Et pour ça, nous allons appeler professeur Schmilblick, qui n'est pas encore arrivé. Je lui ai dit de passer nous voir. Mais en tout cas, on va commencer l'émission. Alors, pas par Wagner, qui était un pote à Nietzsche. Enfin, un pote de ci, de là, quoi. Mais par Beethoven. Et le morceau que je vous passe, enfin, c'est le morceau. C'est son dernier qui est sorti, le dernier, son dernier concert. Mais non, c'est Violin Sonatas, donc sonate violon, Spring et Crudder. Par Takago Nishizaki au violin et Geno Jando au piano. Donc il y a la machine en même temps, mais bon, ça fait style, quoi. Ça fait carrément Nietzsche, hein. Parce que comme il le dit dans ses fragments posthumes, enfin, des bribes qu'il a écrit en même temps que ses livres, il dit, de toute façon, vous allez voir, je vais vous le dire, mais il faut se contredire. Il faut se contredire. Et Nietzsche, c'est ça, quoi. Il remet tout en cause. Même lui-même, il se remet en cause, quoi. C'est pour ça qu'il est passionnant. Et comme il le dit, il s'autocritique très très bien. Donc voici. Oui, bonjour, je les y vais. Ah, salut, professeur Schmilblick, comment allez-vous ? Oh, mais ça va très bien, je suis encore une fois très très heureux que vous me conviez à votre chronique de la barge russe. C'est un plaisir pour moi. C'est à vous, nous vous laissons le micro. Prenez place. Ah, oh, merci. Oh, est-ce que vous avez un petit café ? Vous en avez un, s'il vous plaît ? Mais bien sûr, tenez. C'est très aimable, je les y vais. Merci, merci beaucoup. Donc, nous allons aujourd'hui lire les fragments posthumes de Friedrich Nietzsche. Je n'ai absolument aucun tome de cette collection. Bien sûr, j'ai demandé à Johnny Tubek de les emprunter pour moi. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines que je les ai. J'ai donc eu le temps de je les avais déjà lus, bien sûr. Et ça, des dizaines d'années. Oui. Mais bon. C'est vrai que je n'ai plus cette collection.
En effet, j'avais dû m'en séparer lors d'un déménagement. Oui, mon grand regret, je les avais donnés, vraiment donnés à un élève, un de mes élèves, qui adorait Friedrich Nietzsche, oui, oui, en effet.
Mais en tout cas, c'est un... les fragments posthumes sont essentiels pour les Nietzschiens que nous sommes, n'est-ce pas ? Oui, donc voilà, nous allons commencer par le 12. 12, 13. Je conviens que le 13 est en soi, c'est un peu plus intéressant, n'est-ce pas ? Je récupère davantage de subtilité. Johnny Tibbeck, aidez-moi. Ouais, le matériel. Oui, c'est très bien, Johnny Tibbeck, très très bien. Alors je commence. Le premier chapitre du tome 12. En fait, je devrais avoir autour de moi, donc c'est Friedrich Nietzsche qui le dit, un cercle d'êtres profonds et tendres, n'est-ce pas, qui me protégerait un peu de moi-même et saurait également m'égayer. Car pour un homme qui pense le genre de choses que je dois penser, le danger de se détruire soi-même est toujours imminent. Et je vais continuer, là, je finis avec toi la citation. Il va très très loin. Il faut mieux faire ce qu'il dit. Il faut mieux qu'il soit épaulé, et bien épaulé. Il n'avait pas d'enfant, pas comme vous, cher Johnny Tibbeck. Mais je crois que vous vous employez à des trucs comme ça, spirituels. Mais en tout cas, ce n'est pas de vous qu'on va parler. Vous n'avez pas écrit de livre, n'est-ce pas ? Donc voilà, ensuite, il est difficile d'être compris, dit-il plus tard, au chapitre 182, la simple volonté d'interpréter avec quelque finesse mérite déjà une reconnaissance émue. Dans les bons jours, on ne réclame même plus d'interprétation. Il faut accorder à ses amis une forte marge d'incompréhension, dit-il. C'est très bien vu. Vous voyez, genre, on explique quelque chose, oui, je comprends, en fait, il ne comprend rien. Mais ça, c'est classique, je dirais. Il me paraît préférable d'être mal compris plutôt qu'incompris. Ça, c'est sûr. Mal compris, oui, incompris, je vois, c'est un peu la même chose de mon côté, on l'a aperçu. Voilà, il continue là-dedans, Friedrich Nietzsche. C'est rigolo, oui. Il est plus flatteur d'être mal compris qu'incompris, dit-il. Devant l'incompréhensible, on reste au froid, et la froideur offense. Oui, c'est vrai, c'est juste. Quand la personne ne comprend pas, c'est pas très agréable non plus.
Celles qui n'ont rien. Et voisin, ça te dérange pas. de tout ça, tout le monde s'en fout. Pour la terre, nous voyons l'eau. Malgré tout ça, on regarde ailleurs. Papa Diallo, il y a un effet.
On vient d'écouter La Chose par Voodoo Game. Le professeur Schmilbli a dû nous quitter précipitamment. Je sais pas, je vois pas où il est parti, mais on va pas l'attendre. Alors là, maintenant, on va faire le tome numéro 13. Je vais lui prendre son livre. Il a tout annoté très très bien. Donc je vais essayer de critiquer en même temps, comme lui le ferait peut-être. Même mieux, j'espère. Non, je peux pas dire mieux que monsieur professeur Schmidli, mais... En tout cas, l'angoisse de Dieu. L'homme en tant qu'un faux pas de Dieu, l'animal également. Morale. Dieu interdit la connaissance parce qu'elle conduit à la puissance. À la divinité. Dieu interdit la connaissance. Ok, ça c'est Nietzsche. Hein. Il consentirait à l'homme l'immoralité en elle-même, pourvu que l'homme demeure toujours immortellement stupide. Oui. Les tenir abaissés par la détresse, la mort et le travail. Le danger de Dieu est énorme. Maintenant, il lui faut chasser les hommes loin de l'arbre de vie et les tenir abaissés par la détresse, la mort et le travail. La vie réelle est représentée en tant qu'une légitime défense de Dieu, un état contre nature. Oui, ça... Le besoin d'un monde métaphysique est la conséquence de ce que l'on n'a su emprunter aucun sens, aucun pourquoi. Au monde existant. Le besoin d'un monde métaphysique est la conséquence de ce que l'on n'a su emprunter aucun sens, aucun pourquoi au monde existant. Donc le monde métaphysique est en quelque sorte une attribution du côté invisible. Par conséquent, ainsi concluait-on, ce monde ne peut être qu'apparent. La réalité avec un grand R. Voilà. D'accord. Très bien. Je vois qu'avec Schmilbli, on est quand même sur la même longueur d'onde. Par quoi le réel se distingue-t-il du songe ? Par l'enchantement de sens, l'enchaînement de sens, par le non fortuit. Le non-arbitraire par le causal. Mais à chaque regard, en grand sur la totalité de l'existence, celle-ci semblait dépourvue de sens, de but, de fin. Les fins existantes, rien que tromperie. Ok. Alright. Suite. L'homme devient plus profond, plus méfiant, plus immoral, plus fort, plus confiant en lui-même. Et dans ce sens, plus naturel. Les problèmes irrésolus que je pose à nouveau. Bon, c'est le combat entre Rousseau et Voltaire, apparemment, vers 1760. Ouais, il y a toujours ce truc entre l'homme, le surhomme et l'homme faible, quoi. Mais comme il écrivait pour lui, comme il le dit dans... Bon, il le faisait pas forcément pour ses lecteurs ou des lecteurs, quoi. Il le faisait pour lui avant toute chose. D'ailleurs, c'était beaucoup d'auto-édition au début, Friedrich Nietzsche. Je pense même que c'est son premier, en tout cas. Oui. Ensuite, nécessité de démontrer que par rapport à une consommation de plus en plus économique de l'être humain et de l'humanité, par rapport à une machinerie des intérêts et des réalisations de plus en plus étroitement enchevêtré, il faut un contre-mouvement. Je désigne celui-ci en tant qu'élimination d'un luxe excédentaire. Et là, on est dans les cycles. On entre dans le truc des cycles, en fait. Le chinoisisme supérieur, la modestie de l'instinct, la satisfaction dans le rapétissement, une sorte de stagnation du niveau de l'être humain. Une fois que nous aurons en main cette gestion totale de l'économie de la Terre, qui interviendra inévitablement, Alors l'humanité pourra traverser son meilleur sens en tant que machinerie au service de cette économie. Ben ouais, je suis content, parce que c'est un peu l'histoire des cycles qu'on racontait dans les barges russes précédentes. Ouais, une fois, alors lui, c'est en gros, il dit on changera de cycle une fois qu'on aura toute l'économie de la Terre sera à notre contrôle, sera à notre donnée. Et moi, je vous disais que c'est quand on aura vaincu nos peurs, plus intérieures peut-être, quand on aura vaincu nos peurs qu'on arrivera à changer de cycle. C'est bien ça. Qui interviendra à son meilleur sens comme un énorme engrenage de roues. Ouais, un engrenage de roues, les cycles, quoi. De plus en plus fines, de plus en plus subtilement adaptées, comme un devenir superflu, de plus en plus croissant. Ouais. La probité des cycles, a-t-il à noter. Bah ouais, lui aussi, il est là-dedans. Excellent. Oui, bonjour, bon, voilà, je vois, vous avez continué. Oui, je vais prendre la suite, si vous voulez. Oui. Allez-y, professeur Schmelby. Oui, alors, voilà, j'en étais ici. Okay. Cette machinerie totale, la solidarité de tous les rouages, représente un maximum dans l'exploitation de l'être humain. Mais cette machinerie suppose de ces êtres qui donnent un sens à cette exploitation. Dans le cas contraire, n'est-ce pas, elle ne serait effectivement rien qu'un avilissement du type humain, un phénomène régressif au plus grand style. Nous sommes là dans le contrôle du système, le système contrôle, le contrôle du système, exactement. Déjà au 19e siècle, Friedrich Nietzsche s'en apercevait. Mais qui a pris ça à la lettre? Je ne le connais pas. Le monde n'a pas changé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne proposait pas... Il proposait peut-être, je ne connais pas toute son œuvre, vraiment, à fond les caisses, mais... Très bon, ouais, café de Johnny Tipek. Très bon, merci. Oui, très bon. Oui, bon, il est très bon, son café. Quelle est la mouture? Oui, ouais, très bon, oui. Bonne cafetière, ça, oui. Ouais, italien, oui, très bon. Ouais. Très bien. Donc l'être humain s'avilit, à quelle fin? Un nouveau, à quelle fin? Voilà ce qui est nécessaire à l'humanité. Un nouveau cycle, voilà ce qu'il faut à l'humanité. Mais voilà, c'est la révolution intérieure qu'il faut. Il faut réussir à se dépasser, vaincre ses peurs. Mais Nietzsche revient à tout ça dans le tome 13 de ses fragments posthumes, c'est absolument incroyable, vous allez voir. J'ai écouté vos dernières émissions de Johnny Tipek et vous allez voir, ça poursuit exactement vos pensées. Religion. Dans l'économie intérieure de l'âme primitive, prédomine la crainte devant le mal. La peur. Prédomine la crainte devant le mal. Qu'est-ce que le mal? Il est de trois sortes. Le hasard, l'incertain et le soudain. Comment l'homme primitif combat-il le mal? Il le conçoit comme raison, comme puissance et même comme personne. Ce faisant, il acquiert la possibilité de conclure un genre de pacte avec elle et d'agir ainsi d'avance sur elle d'une manière générale. De les prévenir. Oui. Oui. Un autre moyen de ressource consiste à affirmer la pure apparence de leur méchanceté et de leur nociveté. On interprète les conséquences du hasard, de l'incertitude, en tant que bien intentionné, en tant que sensé. Lorsqu'il n'y a pas de volonté de faire du bien ou faire du mal, eh bien là, ces incertitudes, le hasard, l'incertitude, sont bien intentionnées. C'est le destin, voyez-vous. Oui. On interprète avant tout le mauvais cas en tant que mérité. Le bon Dieu t'a puni. C'est pas, vous connaissez cette expression de Johnny Tipek? Oui, bien voilà, elle est toute trouvée avec Friedrich Nietzsche. Fantastique, vraiment fantastique, Friedrich Nietzsche. On justifie le mal en tant que châtiment. Ah, mais tu l'as mérité, hein, ton petit coup de boule. Eh oui, c'est comme ça. Ah, bah, demander à Rocky Balboa, c'est pas? Non, je n'ai jamais rencontré Sylvester Stallone. Ah oui, oui. Vous auriez. Oui, pourquoi pas. Oui. On va pas s'en. Somme toute, on se soumet à lui. Toute l'interprétation morale et religieuse n'est qu'une forme de soumission au mal. Vous vous rendez compte? Toute l'interprétation morale et religieuse n'est qu'une forme de soumission au mal. Nous entrons dans des préceptes, dans des dogmes qui nous, en un sens, si nous sommes, conjuguons notre esprit avec cette religion, va nous influencer à faire une chose qui sera bonne plus qu'une autre qui sera jugée mauvaise. Et ça, c'est très très mal, bien sûr. La croyance qu'il y a au mal un sens bon signifie que l'on renonce à le combattre. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. Or, toute l'histoire de la culture représente une diminution de la crainte devant le hasard. Oui. Et pourtant, comme il disait au début, dans le numéro 12, Nietzsche, Dieu refusait qu'on ait la culture, refusait qu'on apprenne des connaissances. Et pourquoi? Eh bien, dans la religion, toute l'histoire de la culture représente une diminution de la crainte devant le hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, c'est le destin. Oui. C'est mon point de vue, je ne peux pas l'affirmer. L'incertitude, la soudaineté. Culture signifie en effet apprendre à calculer, à penser causalement, expliquer les phénomènes, à prévenir, à croire à la nécessité. Nécessité plus qu'au besoin. Avec la croissance de la culture, l'homme en vient à se dispenser de cette forme primitive de soumission au mal, dite religion ou morale, de cette justification du malheur. Désormais, il fait la guerre au mal, il le supprime. En effet, en état de sentiment de sécurité, de croyance à la loi et à la calculabilité possible, là où il devient conscient en tant que satiété, où le plaisir au hasard, à l'incertitude et à la soudaineté surgit en tant que chatouillement. C'est-à-dire qu'il maintenant, même revenons au XXIe siècle, le modernisme, la science ont aboli ce qu'il appelle le hasard et cette insouciance. Incertain. Alors que c'est ça qui est meilleur. Mais non, il faut tout expliquer, n'est-ce pas? Les phénomènes, pas les phénomènes extraordinaires, mais les phénomènes, par exemple, scientifiques, physiques, tout ça est explicable, bien sûr. Mais tout ça ruine l'humanité. Je suis complètement d'accord avec Friedrich Nietzsche. Oui. L'homme n'a plus besoin désormais d'une justification du mal, bien sûr. Il a précisément horreur de justifier. Il jouit du malheur pur, cru. Il trouve le malheur absurde comme le plus intéressant. Si jadis il a eu besoin d'un Dieu, maintenant c'est un désordre universel sans Dieu qui le ravit. Un monde du hasard dans lequel l'effroyable, l'équivoque, la séduction appartiennent à l'être. C'est-à-dire qu'il est... actuellement, oui, je suis d'accord, la plupart des personnes ne pensent pas à ça. Ils sont très... si ça... il n'y a pas de réponse si le mal arrive. Disons. Il n'y a aucun phénomène. Le côté invisible, comme vous dites, Jennifer Beck, n'existe pas, n'existe plus. Pour la majeure partie des personnes, bien sûr. Et c'est ça qui accablait déjà Friedrich Nietzsche au XIXe siècle, n'est-ce pas? L'année, je vais vous donner, 1887-1888. C'est même pas... C'est incroyable, c'est vrai. Ouais. C'était pas incroyable vu qu'il était là. Alors, maintenant... Pour l'idéalisme de ceux qui se méprisent eux-mêmes. La foi ou les œuvres. Et bon, là, dans ce chapitre, il en vient au dilettantisme chrétien de Luther, donc le protestantisme. Le dilettantisme chrétien de Luther. La foi est le pont aux ânes, dit-il. L'arrière-plan, c'est une conviction profonde et de même la conscience instinctive. Chez Luther, et c'est pareil, de leur incapacité d'œuvre chrétienne. En fait personnel, dissimulé, sous une extrême méfiance quant à savoir si n'importe quel agir ne serait pas absolument péché. Inspiré du diable, en sorte que la valeur de l'existence n'appartiendrait qu'à des états particuliers hautement tendue d'inactivité. Prière, réflexion, etc. En fin de compte, il aurait raison. Les instincts qui s'expriment dans tout l'agir des réformateurs, donc Luther était un réformateur, l'instinct qui agit en eux-mêmes, sont les plus brutaux qui soient. Ce n'est que dans le fait de se détourner absolument de soi-même, de s'abîmer dans son contraire, rien qu'en tant qu'illusion, la foi, que l'existence leur était supportable. Et c'est là-dessus, en lisant ça, Nietzsche, c'était un peu la même façon de procéder. Il allait jusqu'au bout de ses pensées pour se retourner. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Eh bien oui, mais ce n'était pas un con, Frédéric Nietzsche. Hein, c'est vrai? Non. Alors plus loin, enfin mon posthume toujours. Voyons ce que le chrétien authentique fait de tout ce qui dissuade son instinct, souillé et suspecté, l'être beau, brillant, riche, fier, sûr de soi, connaissant, puissant. Il soumet toute la culture, en somme toute la culture. Son intention vise à la priver de la bonne conscience. Qu'on lit simplement Pétrone immédiatement, après le Nouveau Testament, qu'on respire, l'homme, comme l'on chasse loin de soi les miasmes de la maudite momerie. Momone, oui. Que le chrétien authentique, se dissuade son instinct, premier, souillé et suspecté d'être beau, brillant, riche. Il a des doutes sur tout, n'est-ce pas? Vise à la priver et le fait de rejeter ses instincts primaires, le fait passer à côté de la chose réelle. Oui, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Oui, c'est intéressant. C'est ça. Oui, après Nietzsche agnostique, il n'avait pas de religion, mais pas, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas croyant. Je crois que c'est un peu la même chose. Vous êtes croyant, vous croyez en quelque chose, comme vous dites, mais vous n'avez pas de religion. C'est ça, exactement, oui. Oui. Je pense qu'une force est une force transcendante, j'appelle ça. Oui, très, très bien, très, très bien. Je continue. Ensuite, concernant la hiérarchie, toujours dans ces fragments posthumes, qui va être le dernier point que j'ai pu relever. Concernant la hiérarchie, qu'y a-t-il de médiocre chez l'homme typique qui ne puisse comprendre l'envers des choses en tant que nécessaire? Qu'il combatte les calamités comme si on pouvait leur échapper. Qu'il ne veuille accepter l'un en même temps que l'autre. Qu'il veuille effacer, éteindre le caractère typique d'une chose, d'un état, d'une époque, d'une personne, en ne voulant approuver qu'une partie de leur qualité pour supprimer les autres. La désirabilité du médiocre est cela même que nous autres combattons l'idéal en tant que ce qui ne doit plus rien impliquer de nuisible. Les individus ordinaires, ce ne sont pas les surhommes pour Frédéric, ce sont les faibles, comme il l'a déjà vu, les hommes primitifs, les appelle-t-il tout à l'heure, les individus ordinaires ne peuvent représenter qu'un tout petit angle de ce caractère de nature. Il succombe bientôt à la pluralité des éléments et à la tension accrue des antagonismes, condition préalable à la grandeur de l'homme, qu'il faut que l'homme devienne plus méchant à mesure qu'il s'améliore. Voilà ma formule de cette inéluctabilité. Alors plus loin, plus méchant, bien sûr, tout ça est très relatif. Qui devienne plus agressif, peut-être plus dynamique, peut-être. Mais pas méchant comme on peut le comprendre, peut-être certains d'entre nous. On peut prendre un flingue et tuer son voisin. Non, c'est pas ça qu'il entend par méchant. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Peut-être, ça ne lui traversait même pas l'esprit, quelque chose comme ça. Non, il était un homme bon, au fond, Friedrich Nietzsche. Dans ce sens, des époques et des peuples tout entiers offrent quelque chose de fragmentaire. Peut-être appartient-il à l'économie de l'évolution de l'humanité que l'homme se développe fragmentairement. C'est pourquoi il ne faut absolument pas méconnaître que malgré tout, il ne s'agit que de l'homme synthétique, en devenir que les hommes inférieurs, l'énorme majorité, ne sont que des préludes et des répétitions dont le jeu d'ensemble, ça et là, donne naissance à l'homme intégral. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ? Nous avons là affaire à une espèce de schizophrénie. Il arrive à changer de point de vue dans sa tête. Des multimonades. Il est très perspicace dans tous ses propos, dans tous ses mots, je dirais. Il est assommant et fantastique. Enfin, à chaque fois que je le relis, je tombe d'amour, un amour démesuré. C'est fantastique. Ouais. Je vais même me replonger dans les fragments posthumes, hein, oui, intensément. Oui. Aucun doute. Aucun doute. Oui, je vous remercie beaucoup. Laissez-moi encore un instant, s'il vous plaît. Je suis tombé d'amour. Peut-être appartient-il à l'économie de l'évolution humaine. Donc là, oui, c'est ça, je l'ai. C'est les cycles, oui, c'est ça, les cycles dépendent justement de cet homme, comme dit Friedrich Nietzsche, inférieur, qui ne se pose pas de questions, bien sûr, oui, c'est ça, il ne se pose pas de questions, et qui avance. Et qui se plaît dans son confort, dans ses illusions du monde, et qui ne va pas se confronter à ses peurs, va rester dans le conformisme pour la consommation et être conditionné, et bien sûr dans le but d'être contrôlé. C'est un film que j'avais vu dans les années 2020. Oui, c'était avec Anthony Hopkins. C'était The Father. C'était avec un vieil homme qui perdait la boule. Mais pour lui, il ne la perdait pas. Du tout là, c'est schizophrénie aussi. Il était Alzheimer, vous savez. Et cette maladie d'Alzheimer, j'ai aperçu une schizophrénie, un aliéné, cette personne. Et elle voit les choses, et tout se répète, la même journée se répète toujours dans son esprit. Il est dans la maison avec sa famille, et ensuite, certains faits le marquent, et ça se répète, et se répète, et se répète. Il n'arrive pas à aller au-delà. Au-delà. Des personnes sont comme ça, sont vraiment très... sont stressés, sont cloisonnés au mal qu'on leur fait. Ils n'arrivent pas à dépasser le mal, à dépasser leur peur, n'est-ce pas ? Et là, lorsqu'ils entrent, ces personnes peuvent ou non entrer dans cette maladie d'Alzheimer, eh bien, ça se répète. Après, le réalisateur n'est certainement pas d'Alzheimer, mais il connaît certainement très, très bien son sujet. C'est d'ailleurs une performance très, très... Oui, sans équivoque, indéniable, Anthony Hopkins. C'était filmé, c'était vraiment un très très joli film, tu vois. The Father, Anthony Hopkins. Je ne sais plus le nom du réalisateur, Zolan, peut-être, je ne sais plus. C'est un film très très intéressant aussi. Je dis ça par rapport à Nietzsche aussi, qui arrive à toucher, à aller dans tous les coins de sa tête pour voir... Se monter, descendre et adopter différents points de vue.
La barge russe. Tous les jours, à 14h, avec Helmut Schwartz et Johnny Tufbeck.